Le Space Cast.
Avec JF Blais et Louis Gauvin.
Radio X.
Hey, on est là. On est en train de régler des petits problèmes techniques. Le Spacecast qui est avec vous jusqu'à 22h. Je m'appelle Jean-Francis Blais, face à moi, bien sûr. Violent Lou, Louis Gauvin.
Oui, monsieur.
Très heureux d'aller jaser avec notre ami avec qui on discute du meilleur ami de l'homme. Une fois de temps en temps.
Toujours.
C'est toujours un bonheur de le recevoir. Puis je sais que vous avez souvent vos questions par rapport. Puis c'est le fun parce que c'est un segment qu'on fait pour vous autres, carrément. Tu sais, si vous avez des enjeux avec votre animal de compagnie, votre chien particulièrement, ben c'est le temps de nous les texter au 418-670-9098 parce qu'on s'en va jaser avec notre ami Chris Corré, que vous connaissez, hein, notre spécialiste en comportement canin. Salut Chris!
Hey, salut à vous deux, salut Louis, salut Jeff. Ben, écoute, moi aussi, c'est un bonheur de vous retrouver dès que j'ai l'opportunité de pouvoir parler chien avec vous autres. Fait que très content d'être avec vous ce soir.
T'es en forme?
Ah, vraiment?
Excellent. Écoute, je te lance cette première balle courbe-là, comme j'ai l'habitude de faire.
Je les aime.
On a, avec la saucisse, commencé sous la recommandation du vétérinaire et du gars de l'animalerie, là, je vais le dire de même, de la bouffe senior. Parce que là, il est rendu d'âge senior, notre saucisse. Mmh. Est-ce que, tu sais, c'est juste un terme pour classer le chien dans un range d'âge ou lorsqu'un chien devient senior, il est comme membre de l'âge d'or canin, tu sais? Y a autre sa bouffe, y a-tu d'autres affaires à changer qu'un chien qui se considérait senior?
Ben, écoute, c'est une super bonne question qu'on pose en règle générale parce qu'on me demande très souvent aussi au niveau alimentaire. On voit qu'il y en a pour les puppies, il y en a pour les adultes, il y en a pour les grandes races, pour les petites races, il y en a pour les seniors. Et on me demande, c'est-tu du marketing ou y a-tu vraiment quelque chose qui est lié à chaque étape de vie ou en fonction du type de chien? Et oui, la nourriture, elle est vraiment adaptée dans la majorité des cas. Alors, je connais bien sûr pas toutes les recettes de tous les fournisseurs de nourriture d'aliments pour chiens. Mais je peux vous dire qu'effectivement, il y a des enrichissements qui sont faits pour certaines tranches d'âge. Je pense notamment quand on parle de croissance ou de décroissance à l'âge du senior. On sait que tout ce qui est articulaire, en règle générale, c'est un petit peu plus sensible. Mm-hmm. Plus sensible à la croissance parce qu'il se fabrique. Et un petit peu plus sensible lorsqu'on arrive dans un âge plutôt vénérable parce qu'elles ont été sollicitées toute une vie. Et effectivement, on va enrichir, en règle générale, la nourriture d'éléments aussi bien naturel, comme par exemple de la moule verte, que des éléments un petit peu plus, on va dire, moléculaires, comme par exemple l'utilisation de chondroïtine ou de glucosamine qu'on va utiliser pour justement favoriser, on va dire, un meilleur entretien des articulations. Okay. Ça va également avec toutes les parties dentaires, parce que ça peut arriver aussi au niveau dentaire que les chiens arrivés d'un certain âge commencent à avoir des problèmes ou de tartre ou alors même de perte de dents. Ben, c'est un peu comme chez nous les humains, j'aurais tendance à vous dire. Fait que ça peut effectivement aussi les aider. Ça peut aussi au niveau de la vue, on va utiliser peut-être un petit peu plus d'oméga-3. Enfin bref, on va utiliser des ingrédients qui vont être enrichis dans ces recettes-là pour nous assurer de répondre aux besoins que le chien pourrait avoir lors de sa période de vieillissement.
Je me souviens qu'à un certain moment donné, tu m'avais glissé que tu étais en train d'apprendre certains principes de naturopathie avec les chiens.
Exact, exact. Écoute, je vais vous dire très honnêtement, j'ai mis ce petit dossier-là entre parenthèses avec tous les changements de vie que j'ai pu rencontrer ces derniers mois, mais il est né juste entre parenthèses, c'est-à-dire qu'il me reste encore deux segments à finaliser et mon examen final naturellement à faire. Mais on va dire qu'un bon 80% de la formation avait été avancée. Okay. Fait que c'est pas encore un dossier clos, bien au contraire. puisqu'on en apprend des choses hyper intéressantes, et pas seulement la naturopathie au niveau de ce qu'on va leur donner, les faire ingérer, mais la manière avec laquelle également on travaille aux côtés d'eux, le choix des exercices qu'on va utiliser, la manière avec laquelle on va marcher avec notre chien, la manière avec laquelle on va être amené à l'entraîner. Il y a plein de recettes et de principes qui sont hyper intéressantes. Je vous garantis que quand je serai titulaire de mon examen, je vous proposerai un petit segment spécial sur les bons trucs de la naturopathie, facile à utiliser à la maison.
Ah, ben ça serait vraiment cool. Est-ce que vous avez, tu sais, parce qu'il y a plusieurs personnes autour de moi qui m'ont parlé, ça fait comme 3-4 en 2 semaines qui me parlent du cancer qu'a eu leur chien. Y a-tu des éléments? Parce que là, je me doute bien que même pour les humains, on sait pas trop. Fait que pour les chiens, je serais surpris qu'on ait un remède contre le cancer. Mais y a-tu des éléments qui permettent de, tu sais, de la prévention du cancer?
Ben, ça va être un petit peu comme nous, j'aurais tendance à vous dire. Hein. Malheureusement, il y a des cancers qu'on ne peut pas prévoir. On peut se retrouver avec des gens qui auront fumé toute leur vie, qui n'auront jamais de problème.
Faut que nos chiens arrêtent de fumer la clope.
Exact, c'est ce que je vous recommande. Arrêtez, non au tabac. Le tabac, c'est tabou. On en viendra tous à bout, y compris les chiens. Fait que oui, c'est super important de les faire avoir un mode de vie, j'aurais tendance à dire, un peu comme nous, le plus sain possible. Malheureusement, après, on peut se retrouver avec des problématiques cancéreuses qui peuvent avoir d'autres types d'origines qu'en lien avec leur alimentation ou leur hygiène de vie en général. C'est des choses qui peuvent arriver, notamment liées à des problématiques génétiques ou alors à de l'exposition à certains éléments qui ont provoqué. Vous savez, on nous dit nous-mêmes qu'utiliser des déodorants ou des sprays odorants, ça peut provoquer le cancer. On en sait-tu jusqu'à quel niveau? J'en sais rien. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, les cancers, malheureusement, comme pour les humains, c'est des choses qui peuvent parfois être très difficilement prévisibles. Mais si on veut essayer au maximum de les limiter, c'est sûr que si déjà on agit un peu sur l'hygiène de vie du chien, comme pour la nôtre, on peut éventuellement espérer en limiter quelques-uns. Mais malheureusement, ça les anéantit. Tirera pas tous, je pense notamment à tout ce qui va être les cancers en lien avec les problèmes de sang ou avec les problèmes osseux, par exemple.
Oui.
Un cancer des os, malheureusement, est-ce que c'est parce qu'il manquait de calcium? Est-ce que c'est parce que c'était du calcium trop enrichi? J'en sais rien. Mais malheureusement, parfois, on pogne des maladies de ce type-là dont on n'est même pas capable, des fois, de connaître l'origine nécessairement. Fait que, ouais, essayons au maximum de s'offrir une belle hygiène de vie à nous et à nos compagnons.
T'ennuies-tu du métier, Chris?
Tellement.
Ah oui, pour vrai?
Vraiment.
Je sais à quel point ça a été déchirant pour toi, puis t'es resté comme un passionné de tout ça, mais en
Ouais.
même temps, c'était émotivement très challengeant,
Exact.
les situations que certains clients te mettaient dedans. Là, dans, t'sais, je veux pas te replonger là-dedans, mais pour faire une image aux
Non,
auditeurs, c'était un peu, ben, oh, si tu le prends pas, là, il s'en va se faire piquer demain.
non. Ouais.
J'exagère, mais à peine.
Ben, t'exagères pas du tout. C'était, on va dire, par semaine, c'était les teneurs de courriel que je pouvais recevoir 4 à 5 fois par semaine. C'est j'ai un chien, actuellement j'ai des gros problèmes avec, je me retrouve face à un choix, soit tu m'aides à le gérer, soit je vais être obligé de l'euthanasier. Fait qu'effectivement, on me balançait un petit peu la responsabilité sur les épaules de se dire, OK, ça veut dire que si je te dis non parce que je peux pas, ou parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai pas la capacité, je deviens responsable de la décision que tu vas euthanasier ton chien. Et effectivement, ça devenait difficile à vivre. Mais l'avantage qu'il y a de tout ça, c'était que bah, j'ai pu reprendre une profession que j'aime aussi particulièrement. C'est pas une passion, mais je l'aime vraiment. Et puis je l'incarne, je pense, comme papir. Mais surtout, le fait que je puisse continuer à garder des contacts dans le secteur canin, comme en l'occurrence le partenariat que j'ai avec la SPA, qui me tient cher à mon cœur, parce que le partenariat avec la SPA de Lévis, c'est encore un mariage qui dure et qui dure encore dans le temps. D'ailleurs, on pourrait peut-être s'en reparler, mais cet été, on renouvelle l'ouverture des parcs à chiens dans la rive sud de Québec, donc du côté de Lévis. Donc, on réouvre les parcs canins avec des consultations gratuites pendant 1 heure offertes tous les samedis. Puis je continue aussi à les soutenir, comme en l'occurrence, là, dernièrement, je viens d'accueillir un bébé husky de 7 mois qui s'appelle Buck, qui avait un peu de difficulté à trouver de la famille parce que c'était un chien dans sa pleine grosse période d'adolescence, mixé avec un husky, avec quelques potentiels petits problèmes de santé, mais quelque chose qui peut se travailler avec sa croissance. Bref, très difficile de trouver des familles pour ce beau loulou-là. Fait qu'on me l'a confié. Donc, il est chez nous présentement, le temps de lui trouver une nouvelle famille. Donc, actuellement, j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai une famille de 7 chiens à la maison. Fait que
Fait
rien que ça,
que
d'avoir autant de poilus.
t'es plus temps plein dans le métier, mais t'es encore kind of dans le métier, là.
Cette chienne commence à être temps plein,
ouais, c'est ça, c'est une forme de temps plein, là.
Je vous confirme que c'était un cas, puis moi ça m'oblige, et parce que j'en ai le goût aussi, à continuer à faire des formations, à continuer à voir un petit peu qu'est-ce que la science nous donne encore comme élément ou comme piste de réflexion. Je dis pas que la science a toujours raison, mais en tout cas ça nous ouvre à des chemins auxquels on n'y avait pas pensé, fait que je reste toujours très 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 gourmand d'apprendre sur le chien.
Mais
J'aimerais tellement en être un pendant au moins une petite semaine, même une petite journée, juste pour voir qu'est-ce qu'il perçoit, comment il sent les choses là. Oh, je suis
mais sans être, tu sais, sans jouer à la belle-mère, là, qu'est-ce qui, tu sais, sans jouer à la belle-mère sur le métier en tant que tel, qu'est-ce qui a changé entre le moment où tu es rentré dedans ou et actuellement, là, tu sais, parce que les réseaux sociaux ont vraiment pris de l'ampleur, puis je sais pas si ton algorithme aussi t'as ça, mais moi j'ai beaucoup de wannabe influenceur, chien, coach canin. Puis je me dis, hey, je suis pas sûr. Permettez, je veux pas être le gars qui joue à. Je juge les passions des gens, là. Peut-être qu'ils sont super passionnés autant que toi. J'en sais trop rien, mais je trouve qu'il y en a beaucoup.
Exact, exact. Ben écoute, ça a été une belle aubaine pour beaucoup de professions après la COVID de voir naître des opportunités. Puis le secteur canin n'en a pas été de côté non plus. Et effectivement, ce qui s'est passé, puis ce qui se passe de plus en plus, c'est que ben, de plus en plus de personnes offrent des services d'accompagnement canin. J'aurais tendance à vous dire, il faut toujours être très très vigilant parce que ça prend quand même une formation, ça prend quand même une certaine connaissance du chien. On peut pas, parce que moi j'ai deux chiens à la maison puis que je les aime et puis qu'ils sont fins avec moi, me dire, moi j'ai deux chiens qui sont fins à la maison, je les capote, ça fait 2 ans que je les ai. Allez, je vais devenir comportementaliste canin. Là je capote, là je serais capable de faire ça.
Ils m'ont jamais mordu.
Ils m'ont jamais mordu, puis ils sont fins avec tout le monde qui vient à la maison. Oh, maudit, je suis capable de dresser des chiens. Fait que, pourquoi pas dresser ceux des autres. C'est sûr que ça nécessite quand même au moins un bel apprentissage et des bonnes formations de référence. Et il y en a qui existent, puis il y en a de nombreuses. Je ne cesserai de citer celle qui m'a, moi, permis de me rendre compte que j'étais à la bonne place au bon moment. C'est quand j'ai suivi celle de Jean Le Sahar, qui est le FEC. C'est une formation en éducation et en comportement canin. Cette formation là, elle m'a changé toute ma vie. Ça a été une formation dans laquelle on a pu travailler sur de la théorie, sur de la pratique avec un éducateur reconnu. C'est même lui qui m'a fait rencontrer le domaine des loups après, parce que lui est un fervent utilisateur du Wolf Park en Indiana. Fait qu'il faut vraiment s'armer de compétences, de formations. Puis, à nous, après, qui allons chercher des conseils en éducation, d'aller aussi faire des recherches sur l'éducateur qu'on va aller sélectionner.
Y a-tu, t'aurais-tu des gages de qualité à donner à nos auditeurs? T'sais, est-ce qu'il y a un ordre professionnel? Est-ce qu'il y a une formation en particulier que quand tu vois dans le curriculum de quelqu'un, tu peux dire « Ah, ça n'est un bon parce qu'il a pris une traque plus ardue, donc il est investi un peu plus. » Y a-tu des éléments, là, des sweet spots à surveiller?
Écoute, c'est super intéressant ce que tu viens de dire, parce que comme tu viens de le dire, on n'a pas d'ordre qui permette de réglementer comme le seraient les avocats, les notaires, les gens en ressources humaines, les médecins, etc. Ça n'existe pas dans le comportement canin. Par contre, il y a de nombreuses personnes qui se réunissent et font des regroupements pour créer des espèces d'associations qui vont pouvoir avoir pour vocation de dire ben « nous, on va mettre un espèce de cahier des charges ». Et si tu veux faire partie de ce regroupement, donc avoir une certification comme quoi tu fais partie de ce regroupement-là, c'est que tu seras passé au travers de différents tests, plutôt de nature théorique quand on rentre dedans, parce que ce n'est pas évident pour ces regroupements-là d'aller faire des tests sur le terrain, parce que ça demande du temps, ça demande de l'organisation. Mais de manière théorique, on va partir du principe qu'à partir du moment où tu as été capable de répondre à toutes les questions théoriques en lien avec le comportement canin, et au regard de ce que la science nous donne maintenant, ben tu vas avoir ton petit logo « Je fais partie de ce regroupement » et tu devrais être considéré comme un conseiller canin fiable. Maintenant, comme je dis, c'est un peu comme tout. Tu peux très bien faire partie de l'ordre des avocats parce que tu as réussi ton examen, tu es un excellent théoricien. Mais dès qu'on te met dans une cour et puis qu'on te met face à un avocat général ou qu'il s'agisse vraiment de défendre la cause de quelqu'un, possible que finalement tu te retrouves un peu à court de compétences,
oui,
parce que tu as de très bonnes connaissances théoriques, Mais là, dans la pratique, c'est une autre affaire.
Ben, on le voit souvent, ça, c'est sur les réseaux sociaux, là, des gens de free men on the land là, qui disent connaître le droit par cœur. Quand ils arrivent en cours, ils se font démonter aussi. Là.
Exact. Je pense que c'est un peu comme tout métier. Une formation, c'est une chose. Après, ben, la compétence, la connaissance se traduit par la pratique. Et la pratique, nécessairement, ben, il va falloir que tu puisses la développer. Puis, c'est pas vrai que c'est parce qu'on est très bon en théorie qu'on peut être très bon en pratique également. Et inversement, on peut être très bon en pratique, avoir le coup de maître, avoir comme le sixième sens. Enfin, moi, je sais parler aux animaux, tu sais, l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Là, mais j'ai jamais suivi une formation sur les chevaux. Mais maudit, dès que je leur parle, ils me comprennent. il peut y avoir des choses comme ça qui peuvent être très inverses, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît très bien la théorie, mais qui ne sait pas la pratiquer, puis des personnes qui pratiquent de manière hyper magistrale, mais qui n'ont jamais suivi un cours et puis qui ont juste travaillé de manière autodidacte ou à l'intuition. Je pense que la meilleure école, c'est un peu un savoureux mélange des deux, au moins des connaissances techniques minimales. Puis après, c'est sûr qu'il faut l'avoir aussi, ça en soi. Hein. Comme tu l'as dit, je pense que quand tu travailles dans ce secteur-là, qui touche à l'humain, mais également à l'animal, il faut être animé au minimum d'une passion. Puis ça, là, tu le sens auprès des éducateurs quand ils te parlent de leur métier, quand ils te parlent de la manière avec laquelle ils interviennent, quand tu parles de leur priorité. C'est de dire, oui, moi, je suis là pour juste le bien-être du chien. Ouais, c'est vrai, moi aussi, je le suis. Mais si à un moment donné, je ne m'inquiète pas un minimum du bien-être de la famille, je sais que si je ne fais pas le fit des deux, il y en a un des deux qui va prendre le bord. Puis en règle générale, c'est toujours le chien.
Ouais, c'est rare que c'est la famille qui font « Ouais, ben, t'as gagné, et puis tout. »
Ouais, c'est ça. C'est rare que ce soit eux qui déménagent. Donc, par conséquent, il faut toujours avoir aussi ce regard sur la manière avec laquelle les gens interviennent, comment ils te parlent de leur... Il ne faut pas hésiter, quand tu sélectionnes un éducateur canin, à lui poser des questions. Mais comment vous intervenez, OK? Et si moi, je vous dis que là, j'ai presque pas de temps pour travailler avec mon chien, comment tu vas me donner une solution magique? Ben là, si tu vois qu'il commence à t'expliquer sa solution magique, déjà, tu sais que t'es pas sur la bonne track, parce que ça existe pas, les solutions magiques. C'est comme toutes les offres que tu peux trouver d'éducateur canin qui te dit « Travaille ça pendant une heure, et puis ton chien, il marchera en laisse comme s'il avait toujours marché en laisse toute sa vie. » Non, ça marche pas comme ça non plus. Viens pas créer des attentes auprès des gens. Ils n'arriveront pas à atteindre parce que ça va créer de la déception. Puis en général, une fois de plus, c'est encore le chien qui va se ramasser. Donc, il faut toujours aussi avoir du jugement par rapport aux offres qu'il y a. Des offres trop alléchantes, là, c'est comme le gars qui te dit « Tu gagnes un super beau cadeau si tu viens chercher ou si tu viens magasiner un divan dans mon ou une causeuse dans mon magasin. » Ton super beau cadeau, là, en général, c'est un thermos que tu peux récupérer chez toi. Et puis, il faut toujours faire gaffe aux attentes. Là.
Les cadeaux de la vie, là, c'est rare. Ouais. Ça arrive une fois d'une vie, pas plus.
Oui, ça arrive d'une fois dans une vie. Puis je suis très content pour ceux qui en bénéficient. Mais dans le secteur canin, c'est très rare de tomber sur ce cadeau d'une vie dans lequel tu as la pilule bleue ou la pilule rouge. Tu choisis celle qui te va le mieux. Et forcément, ton chien est transformé après l'avoir ingéré. Non, ça ne marche vraiment pas comme ça. Et puis, j'aimerais des fois, mais en même temps, c'est comme ça qu'on construit une relation avec son chien, c'est justement en travaillant avec lui.
Hey, avant de prendre quelques questions des auditeurs, tu as mentionné Parc à chien, tu recommences récidive au Parc à chien à Lévis cet été. Évidemment, on va en reparler, mais je suis curieux de t'entendre. T'sais, pour quelqu'un qui n'aurait jamais essayé encore le Parc à chien, quels sont les basics à savoir? Là? Est-ce que ça prend des vaccins? Est-ce qu'il faut s'assurer que ton chien a un comportement donné en particulier? Est-ce qu'il y a des Parcs à chien qui sont réservés pour tel type de poids? Tu sais, c'est quoi les bases vraiment à maîtriser, si on veut, avant d'aller foutre la marde d'un parc à chien?
Ben merci, Jeff, de me poser la question, et puis merci de permettre justement d'éclairer un peu le monde là-dessus, parce que c'est des questions qui reviennent très fréquemment. Oui, c'est vrai qu'en règle générale, on va demander à ce que les chiens qui vont fréquenter les parcs à chiens soient vaccinés. C'est normal, entre eux peuvent se transmettre des maladies, là, on ne sait jamais de quoi, donc c'est sûr que les chiens qui sont vaccinés sont garants de ne pas transmettre des maladies, donc ça, c'est très important. Comment doit se comporter ton chien quand il arrive dans un parc à chiens? Bah, j'aurais tendance à dire, si c'est la première fois que tu viens, bah, tu ne le sais pas vraiment. Donc, ouais, tu vas y aller un bon feeling. Tu vas le tester. Tu vas voir. Une chose est sûre, c'est que ton chien va peut-être, à travers le grillage, alors même que tu n'as pas encore ouvert la porte de l'enclos, mais que ses compagnons viennent déjà à sa rencontre, peut-être que ton chien va hyper réagir. Et puis là, tu vas dire, oh non, mon Dieu, il est agressif, mon chien, ça ne se peut pas, là, je n'ouvre même pas la porte, je ne rentre même pas dedans, il a envie de tuer tous ses compagnons. On fait demi-tour, on rentre à la maison. Persévérer à ce niveau-là. Pourquoi? Bah parce que le chien, quand il va se retrouver face à une grille et que l'autre côté, il a des congénères qui viennent l'appeler au jeu, c'est possible que ça le frustre. C'est possible aussi lui-même qu'il ait un tel niveau d'excitation qu'il le manifeste un peu par de l'agressivité. Mais rassurez-vous, dès que la porte va être ouverte, le comportement de votre chien, et ça, c'est magique par contre. Là, je vous dis que la magie, ça n'existe pas partout, mais ça, c'est magique par contre. Le comportement de votre chien va radicalement changer. Par contre, toujours vous assurer quand vous rentrez dans un parc à chiens, surtout si c'est la première fois, n'hésitez pas à demander aux utilisateurs qui sont déjà présents sur le parc à chiens. Toutefois, vous voyez des chiens qui sont collés à la porte, leur demander de faire reculer leur chien de la porte pour que votre chien, quand il rentre, il ne se sente pas assailli tout de suite par
Ah,
toute la
ok,
bande de
ouais.
compagnons qui sont là, parce que ça peut faire que le chien, si c'est la première fois qu'il vient là, ben, s'il ne vit pas bien la situation parce qu'on le harcèle tout de suite ou qu'on lui rentre dedans, il ne va peut-être pas bien la vivre. Et puis, par conséquent, qu'est-ce qui va se passer? La prochaine fois qu'il retournera, il va avoir cette espèce d'antécédent qui va rester dans sa tête. Et il va peut-être là avoir un comportement un petit peu plus agressif, mais justement parce qu'il va anticiper que ça va mal se passer. Donc essayez de faire en sorte de mettre des conditions gagnantes lorsque vous allez y aller la première fois et vraiment demander la collaboration et puis la gentillesse des autres participants pour leur demander de reculer leur chien au niveau de la porte. Après, j'aurais tendance à dire, si c'est la première fois que vous venez avec votre chien, qu'il a tendance à être un petit peu protecteur de ressources, qu'il aime bien voir ses jouets, ne venez jamais, et même quand vous connaissez votre chien, on ne vient jamais dans un parc à chiens avec des ressources propres à son chien, parce qu'il risquerait de se battre avec les autres pour pouvoir conserver son privilège. Fait que ne jamais venir avec des gâteries, ne jamais venir avec des balles avec lesquelles on aime travailler avec son chien, parce qu'on ne sera pas les seuls. Il y aura d'autres chiens là-bas qui vont être aussi intéressés par cet objet précieux et qui risquent de créer de la compétition avec votre chien. Et puis au maximum, essayez de voir comment vous pouvez l'éduquer au préalable aussi et travailler sur son rapport. Parce qu'à un moment donné, le chien vous fait rentrer dans le parc, c'est bien, il va s'amuser avec ses amis, mais quand vous allez décider de repartir, peut-être que lui ne sera pas d'accord, peut-être que lui sera content de rester avec ses amis, justement. Moi, je tannais des humains, là, je peux parler avec des amis pour la première fois de ma vie, je rentre pas à la maison. Donc, essayez de travailler un bon petit rappel béton, là aussi, pour vous assurer que quand vous allez vouloir partir, ben, vous n'y passiez pas la soirée pour le récupérer. Fait que, ça aussi, ça peut être un bon truc pour pouvoir commencer tranquillement, pas vite, à intégrer les parcs à chiens. Et tous les samedis, ce qu'on va offrir avec la SPA de Lévis, ça va permettre justement à 10h au parc Saint-Romuald et à 13h au parc Humano à Lévis, d'avoir tous les samedis, pendant 1 heure, un éducateur canin spécialisé, reconnu, qui lui a reçu ses formations, qui sera là pour pouvoir répondre à toutes les questions des personnes. Donc, si c'est une première fois que vous venez
C'est le bon
au
moment,
parc à chiens,
là, ben oui.
exact, exact, c'est le bon moment d'y venir. C'est le bon moment d'y venir.
Excellent. Allez, on passe aux questions de nos auditeurs, puis
Oui!
une première sur le texto. J'ai une question un peu dark. Un monsieur... Ouais, ça commence bizarre. Un monsieur
J'aime ça.
possède 3 chiens du genre pitbull. Les chiens sont avec lui depuis qu'ils sont chiots et ils sont bien nourris. Le monsieur tente d'empêcher ses chiens non attachés d'attaquer 2 passants dans la rue. Ses chiens se sont retournés contre le monsieur propriétaire des chiens et ils l'ont massacré. What the fuck? Le monsieur en est décédé avant d'arriver à l'hôpital. Ma question, pourquoi des chiens bien traités se seraient retournés contre leur maître?
Les chiens étaient attachés, hein. C'est bien ça qui s'est passé. Ils étaient attachés, ils ont été rencontrés d'autres chiens qui, eux, n'étaient pas attachés.
Ouais,
L'humain a voulu essayer de gérer ses chiens, puis ils se sont retournés contre lui, puis ils l'ont tué. C'est ça qui s'est passé.
C'est ce que j'ai. Ouais, les chiens sont avec lui depuis qu'ils sont chiots et ils sont bien nourris. Le monsieur tente d'empêcher ses chiens non attachés d'attaquer 2 passants dans la rue. Ses chiens se sont retournés contre lui.
Ok, donc il a essayé. Donc les chiens n'étaient pas attachés. Donc
Exact.
si je comprends bien, ça veut dire qu'il a dû les pogner au collier, j'imagine, quelque
Ah
chose de
ouais.
même, parce qu'ils n'étaient pas attachés. Ils ont vu des passants qui peut-être étaient accompagnés de chiens ou pas. En tout cas, ça a généré chez les chiens une frustration, parce que la frustration faisait que le chien avait peut-être le sentiment de devoir défendre son territoire. Et malheureusement, on appelle ça de la redirection. Puis ça, malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver même chez nous humains. Je fais souvent cette espèce de parallèle et vous allez comprendre comment le chien, alors que lui, malheureusement, le chien, il a une mâchoire, quand il est arrivé à un niveau d'excitation intense, et puis qu'on le retient, au moment où on le relâche, il peut devenir fou, mais si on maintient cette tension, c'est possible qu'à un moment donné, il redirige son agressivité pour se libérer de son entrave. Je vous donne un exemple très bête. Vous êtes dans un bar avec un ami, ça se passe super bien. Puis là, d'un seul coup, votre ami un peu se fait mobiliser par 2, 3 gars là, qui sont en train de le provoquer. Ça va pas bien. On est en train de vouloir le faire monter pour qu'il s'énerve et puis qu'il y ait une baston qui commence. Puis vous voulez retenir votre ami pour éviter que ça parte et que ça dégénère. Il peut arriver qu'à un moment donné, votre ami, sans faire exprès, parce qu'il a un tel niveau d'excitation et d'énervement, vous donne une claque ou vous balance ou vous recule. Parce qu'il a besoin juste d'aller voir les 2, 3 personnes qui l'achalent. Et il va faire ce qu'on appelle de la redirection dans ce cas-là. C'est pas qu'il voulait vous faire du mal, c'est pas qu'il ne vous aimait plus, c'est juste que le niveau de stress et d'intensité au niveau du cerveau a complètement lâché, puis que là, on est juste avec un seul et unique objectif, c'est régler le compte à ce qu'on considère comme étant une potentielle menace ou un danger.
Okay.
Fait qu'à partir de ce moment-là, c'est sûr que le chien, surtout s'ils étaient deux ou trois même, qui se sont donc craqués l'un avec l'autre, alors imaginez, je vous dis ça pour un ami, imaginez deux amis qui décident de se mobiliser contre une gang de 4-5 personnes et puis que vous voulez les arrêter, c'est possible que ces deux-là, avec un tel niveau d'énervement, vous balancent dans le coin et puis vous risquez peut-être d'avoir des bleus. Et puis des... Mais une fois de plus, ce n'est pas parce que le chien n'aimait pas son humain, c'est parce que la situation dans laquelle on était, puis on s'entend que c'est un chien, ce n'est pas un humain. Et c'est là où il faut toujours faire très attention à ne pas trop anthropomorphiser
Ouais.
les comportements du chien. Le chien est un animal, il reste primitif dans la manière avec laquelle il va réagir face à son environnement, il a des dents. Alors c'est sûr que s'il a un niveau d'excitation qu'il a besoin de décharger et de relocaliser, bah c'est sûr qu'un pitbull qui te pogne avec des dents, s'il te prend la jugulaire, c'est possible qu'il te laisse
Ouais, pas.
aucune chance de survie, là. Mais c'est pas nécessairement justement lié au fait que les chiens n'aimaient pas ou ne... C'était la situation dans laquelle ils étaient, puis le fait que son humain, pardon, les entravait dans ce qu'ils voulaient faire. Donc si en plus ils les gardaient au collier, vous imaginez bien que les chiens étaient très à proximité de l'humain. C'est pas comme s'ils étaient au bout d'une laisse, par exemple. Là, ils étaient quasiment tenus par le collier parce qu'ils n'étaient pas attachés. Fait que par conséquent, le chien s'est retourné face à son humain justement pour se libérer de son entrave et être capable de régler son compte à ce qu'il avait considéré comme un danger.
Encore une autre question, cette fois-ci sur le texto encore. J'ai Jessica, je crois, qui nous demande, salut, femelle dog des Canaries, caisse, de 9 mois, elle est bien protectrice. Lorsqu'elle est dans la maison, elle aboie dès qu'elle entend un bruit provenant de l'extérieur. Je lui parle calmement, lui dis, jappe pas. Mais c'est difficile de la calmer rapidement. Si je la touche lorsqu'elle jappe, il lui arrive de se retourner vers moi fâché, sans me mordre lors de ces moments d'aboiement. Je suis consciente que c'est mon travail, entre guillemets, la protection, mais comment lui faire comprendre, je comprends, pardon, que c'est son travail, entre guillemets, la protection, mais comment lui faire comprendre qu'un bruit provenant de l'extérieur n'est pas nécessairement dangereux? En passant, cette race est tellement merveilleuse, je l'adore, ma belle bringuée. Merci et bonne soirée.
Eh oui, bringés, effectivement, ils sont vraiment bringés, c'est pour la plupart
Hein?
ces boubous-là. Je ne sais pas si vous avez déjà vu à quoi ça ressemble un dog des Canaries, mais un dog des Canaries, c'est un mélange de molossoïdes et puis dans lequel vous avez l'impression des fois d'avoir un peu du cane corso. D'ailleurs, certains d'entre eux, un peu comme les cane corso ou les pitbulls d'ailleurs, ont leur coupé les oreilles pour leur donner un air un petit peu plus intimidant. Mais ça reste une très très belle race, bah, comme toutes les races de chiens, j'aurais tendance à vous dire. Tout dépend comment vous avez poigné. Alors, c'est sûr que c'est un chien qui est un chien de garde à la base. C'est un molossoïde qui est là pour gérer son environnement et pour garder son environnement. Donc, c'est sûr que sa job, c'est nécessairement de prévenir d'un éventuel dérèglement de ton environnement extérieur qui pourrait générer chez toi une attaque d'aliens ou de je sais pas quoi. Bref, il est là pour te dire, fais attention, ça va mal finir. Comment on peut travailler là-dessus sur le jappement? Alors, c'est sûr qu'une fois de plus, comme j'entends la madame, comment elle est en train de parler de la manière avec laquelle elle intervient, son chien jappe. J'essaie de lui parler calmement, puis j'essaie de lui dire tais-toi, c'est bon, j'ai compris. Mais faut pas oublier que le jappement a plusieurs vocations, plusieurs objectifs. Le premier objectif, faire fuir la potentielle visite ou la
Menace.
potentielle gêne, ouais, qui peut y avoir à côté de la maison. Mais le deuxième objectif, c'est de prévenir aussi les habitants de la maison qu'il y a potentiellement un danger qui s'en vient. Alors c'est sûr que s'il aboie et puis que madame elle répond, lui, il vient de comprendre qu'il a réussi à mobiliser son humain face à la situation. Donc là, dans un seul cas, on vient de renforcer son comportement. Quel truc je pourrais lui donner? Parce qu'on va passer directement au truc plutôt que de faire une analyse sémantique de tout pourquoi ça marche comment, etc. Moi, ce que je lui proposerais, c'est de travailler avec son chien près de la fenêtre, par exemple, de demander à quelqu'un à l'extérieur d'aller faire des bruits, et puis de travailler avec le chien pour lui permettre de dire, dès que le bruit est généré, si le chien se met à japper, vous quittez la pièce. Si le chien ne s'est pas mis à japper ou commence à faire un petit mais qu'il n'a pas commencé encore à japper, essayez de récupérer son attention. Puis s'il est capable de maintenir sa position calme et silencieuse, vous le récompensez. Vous lui faites comprendre, là, avec sa façon à lui de comprendre l'information, donc par conditionnement, vous lui faites comprendre que le fait de ne pas réagir à un petit bruit, c'est le comportement que vous attendez de sa part. Mais s'il agit en jappant, il faut qu'il comprenne qu'il va avoir le résultat inverse, c'est-à-dire plutôt que de vous mobiliser et d'avoir une réponse de votre part, vous allez quitter là où vous vous trouvez actuellement. Et là, le chien, il ne va pas comprendre. Il va dire, ben voyons, il y a eu un bruit. On est potentiellement en danger. Pourquoi tu sacs ton camp dans la cuisine? Voyons donc. Donc, il ne va pas comprendre la raison pour laquelle on est parti dans ce sens-là. Donc, on est en train de travailler à travers ces codes, mais en mode conditionnement. Ceci étant, ce que moi, je recommande aux gens, c'est de ne pas nécessairement éteindre totalement le jappement. Mais comme elle le dit, j'ai du mal à le faire revenir au calme. Ce qu'on veut, c'est qu'il soit plus contrôlé sur ses jappements. Donc, on peut lui apprendre éventuellement à faire un dès qu'il a entendu un bruit. Et éventuellement, dès qu'il a fait on peut faire un commandement de redirection, comme par exemple un touch, lui apprendre à revenir nous voir pour qu'il vienne coller son museau dans notre main et le renforcer. Touch. De façon à ce qu'il comprenne que automatiquement, s'il s'arrête et qu'il vient me voir, il va être renforcé. Donc, on peut lui apprendre aussi à canaliser ce comportement-là, mais je ne suis pas nécessairement pour qu'on l'éteigne totalement, parce que, veut, veut pas, il y a 35 000 ans en arrière, quand on était dans notre caverne, on voulait qu'il gueule fort pour nous réveiller si un mammouth venait se pointer à l'entrée de notre caverne. Donc, on
Oui,
voulait qu'il
ou
fasse ce job-là.
même moi, je j'haïs pas que le chien puisse. Parce que, tu sais, c'est rendu qu'il jappe. En tout cas, moi, la saucisse, elle jappe tellement que, je veux dire, je suis quand même assez habitué, mais je sais reconnaître quand il y a vraiment quelqu'un. Parce que le jappement est comme amplifié, puis
Oui.
ça donne un buffer entre la rue puis la sonnette. Puis je l'apprécie, ce
Exact.
buffer-là. Ça me donne le temps de me
Exact.
cacher pour répondre.
Ou alors te remettre, te rhabiller si tu n'étais pas
Ouais,
en position de
exact,
calme.
en tenue d'Adam.
Exact. Mais effectivement, je pense que ça, c'est un comportement du chien qui est inhérent au chien, c'est sa manière de communiquer. Moi, je suis plus pour travailler sur la canalisation de son jappement plutôt que de l'extinction complète de ce comportement. Et ça, comme je vous dis, ça se travaille. Ça peut même se travailler, on peut très bien lui faire comme un geste de la main. Vous savez, quand on fait le jappement avec la main, là, vous mettez le pouce et puis vous mettez le reste de votre main à faire bouf, 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 là,
Ouais,
vous
comme si
pouvez
on
très bien
faisait une
lui
bouche
faire.
de chien, là, une gueule de chien avec
Exact.
notre main, là.
Exactement. Et là, vous pouvez faire wouf, 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 wouf. Puis quand vous fermez le poing, il s'arrête, vous le récompensez. Wouf, 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 fermez le poing, il s'arrête, vous récompensez. Vous pouvez très bien après réutiliser ce poing pour lui apprendre à dire, là maintenant, il faut que tu fermes ta gueule. Fait que c'est une fois de plus, c'est un travail de conditionnement au préalable. Mais comme je dis, ce n'est pas dans les situations où le chien est déjà déclenché que vous allez le travailler. Il faut que vous le conditionnez avant. Puis après, les situations auxquelles vous allez vous retrouver exposé vont vous permettre d'éprouver si oui ou non votre processus d'éducation a été efficace ou pas. Mais c'est ça. Mais comme je vous dis, oui, effectivement, un dog des Canaries, je vous invite à aller voir à quoi ça ressemble. Moi, j'ai eu l'occasion d'en travailler avec deux ou trois des dogs des Canaries. Et c'est des chiens, effectivement, qui sont très à l'écoute, puis qui sont très intelligents. Ils sont vraiment brillants, ces chiens-là.
Méchant de
Puis on
bête,
est
hein?
vraiment.
Sur
Ouais,
Google
hein.
Images en ce moment, méchant colosse.
Exact. Bah, tu vois, on est vraiment sur le molossoïde à proprement parler, mais c'est des chiens très intelligents, c'est des chiens très, très attentifs à ce qu'on leur demande. Fait qu'en travaillant avec lui, je suis convaincu que cette madame sera capable de régler un bon 95% de ses problèmes de jappement chez eux.
Hey Chris, un gros merci pour ce soir. C'est très apprécié. C'est toujours un plaisir jaser comportement canin avec toi. Puis je suis vraiment content, même si tu sois plus temps plein là-dedans, je suis content que tu aies quand même gardé la flamme là, qui t'anime pour les chiens, en fait. Là. Pour toi, je sais que tu aimes ça, t'as gardé un orteil trempé dans cet univers-là, mais c'est aussi les chiens qui en bénéficient, là.
Exact, je t'avoue que j'ai pas que l'orteil, puis quand tu parlais de flamme, quand je mourrais, tu sais, on émet tout notre dernier gaz, là, on appelle ça le feu follet. Je pense qu'il ressemblera à un chien quand je partirai à ce moment-là. Fait que oui, la flamme, je vais l'avoir jusqu'au dernier souffle.
Ah,
Je vous le garantis.
tant mieux, mon cher. Et on se voit et on se jase bientôt, mon cher.
Avec grand plaisir.
Salut, à la prochaine.
Salut, bye.
Bye bye. C'est Chris Corée, notre ami de Horus, que vous connaissez si vous suivez l'émission depuis un bon moment, qui est notre spécialiste quand il est question de comportement canin. Parlant de manquer de chiens, c'est le cas du Canadien ce soir.
Ah,
ça sent pas la coupe, hein?
catastrophe,
Hey, pour vrai, c'est
man. Ah,
épouvantable.
la réalité nous frappe en pleine face. Les
C'est.
Canadiens sont à chier.
Ah, c'est épouvantable comment, pour vrai, là, j'ai vu au moins deux buts où t'as un gars qui a le temps de prendre son shot et surtout, t'as un joueur des Sables positionné les deux pieds, les deux patins dans le béton devant Dobesch
Wide open.
pour y voiler à vue, là. Si tu veux qu'il fasse, man, si tu veux qu'il fasse, il a le gros cul du gars du Wild, pas du Wild, excuse, de Buffalo d'en face. Il peut rien faire contre ça. Ça fait deux fois, là, facile. Il y en a une autre fois aussi où est-ce qu'il vient de se faire battre, là, d'un tir où est-ce que un de ses défenseurs, je présume, un de ses défenseurs, c'est qui, 45? C'est une New Hook?
Non.
Je ne sais plus c'est qui.
C'est Alex Carrier.
C'est Alex Carrier qui se met comme un petit bonhomme pour faker.
Ouais, c'est Carrier.
C'est Carrier. Il se met un petit bonhomme comme pour faker qu'il va bloquer le shot, mais il ne donne pas l'effort suffisant pour le bloquer pour de vrai. Fait que qu'est-ce que ça fait? Un power tir voilé, man. Tu veux faire contre ça?
Rien.
Ah non, aujourd'hui, là, ça fait pitié.
Mais de bêche, quand il s'est fait battre sa mitaine aussi, là. Lève-toi à mitte un peu, battin, ça regarde là.
Ben, c'est sur ce tir-là qui est voilé. Il est complètement voilé. Il y a une grosse paire de foune bleue d'en face.
Ça, j'ai pas remarqué. J'ai juste remarqué la poque qui passe à côté de la mitte, là.
Ah, c'est une méchante. En tout cas, aujourd'hui, là. Non, ça va pas bien actuellement. La marque, c'est 4-1 pour le Canadien. Je vous le dis parce que probablement que vous êtes de retour. Là, c'est une maudite bonne affaire.
Okay. Il y a du monde à la messe.
Yes. Hey, on fait une courte pause. De l'autre côté de la pause, le Spacecast se poursuit. Et ce, jusqu'à 22h.
Le Spacecast.
Avec JF Blais et Louis Gauvin.
Radio X.